Il y a quelque temps, le président Macron a fait une déclaration à propos des émeutes dans les banlieues, pas les dernières, mais un peu avant. Il a employé un mot, le terme décivilisation. Il a dit, nous vivons un temps de décivilisation. Alors évidemment, des réactions ont suivi, conformes au théâtre politique, hein, réactions indignées à gauche, réactions plutôt favorables à droite. Bon. Ce terme interpelle, décivilisation. C'est un mot qu'on utilise assez peu. Pourtant, tous les spécialistes qui étudient les civilisations, les historiens, les anthropologues, les sociologues, tout, savent qu'une civilisation est un processus, donc, qui a un début et qui a une fin. En 1919, et la date est importante, 1919, un grand penseur français qui s'appelle Paul Valéry écrivait dans un livre au titre quand même assez évocateur, La crise de l'esprit, et il avait mis un E majuscule à esprit. Il écrivait cette phrase qui a donné lieu à des multiples sujets de dissertation dans l'enseignement, que vous connaissez sans doute. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Et oui, la Première Guerre mondiale avait montré que le continent le plus développé de la planète et celui qui avait donné censément les plus grands penseurs et les plus grandes œuvres d'art était capable, dans une guerre stupide, de se détruire lui-même. Depuis cette guerre, malheureusement, nous avons eu d'autres preuves de cette mortalité des civilisations. Une civilisation, ça obéit à trois temps. Vous avez d'abord un moment de croissance. On part d'une situation qui est basse et puis ça monte, ça s'améliore, il y a des progrès. Et à un moment donné, on arrive à un point où on a une vie bien meilleure que celle des temps passés. Toutes les civilisations le prouvent. Après, il y a un très long plateau. Très long plateau. Plus ou moins cabossé par des crises, alors ça peut durer très longtemps, où le niveau se maintient, il y a toujours des progrès, mais en gros, on est à un haut niveau de civilisation. Et puis, vous avez un troisième temps observé partout, c'est le temps de la régression et de la chute. Alors ça peut être très lent, ça peut être très brutal. Nous, les Français d'aujourd'hui, vous à qui je parle, nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a ses racines. On va dire dans le monde gréco-judéo-chrétien. C'est-à-dire, en gros, nous sommes les héritiers de 2500 ans de civilisation, avec un plateau qui a connu des hauts et des bas. Nous allons maintenant, souvenez-vous bien de ce que je viens de vous dire, nous allons lire le texte du jour, qui est le psaume 11, les trois premiers versets. Alors, psaume 11, les trois premiers versets. Au chef des chantres de David, c'est encore un psaume de David, comme toujours dans le premier livre. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Vous voyez que c'est un psaume d'épreuve, hein, douloureux. C'est le verset 3 hein, qui va servir de thème à cette prédication. Comment interpréter ce verset? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je vous propose de réfléchir à trois attitudes possibles face à ça. La première, c'est le temps de la déploration et du renoncement. Au temps de David, ce qui se passe au temps de David, c'est une guerre qui risque de mettre à bas le royaume d'Israël, c'est-à-dire que le royaume d'Israël peut disparaître. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que ce royaume peut complètement disparaître. Donc, quand David écrit ça, il ne dramatise pas. La situation est absolument tendue. Et vous avez deux ou trois autres psaumes, enfin, bien d'autres, mais j'en ai cité deux ici, où David écrit dans des situations très périlleuses. Le psaume 3, par exemple, c'est au moment où son fils Absalom se révolte contre lui. Donc là, il risque de perdre la vie et de perdre le royaume. Et qu'est-ce qu'il écrit dans le psaume 3, aux deux premiers versets? Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, qui sont nombreux mes adversaires. Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Là, c'est l'expression de quelqu'un qui est désespéré, qui voit bien que ceux qui sont contre lui, disent qu'il est tout seul, Dieu l'a abandonné. Le psaume 10 également, on prend les quatre premiers versets, vous le connaissez celui-là aussi. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Donc, encore une fois, là, c'est le méchant qui est mis en avant et qui profite du fait que Dieu a l'impression, enfin, David a l'impression que Dieu l'a abandonné. Alors, regardez le cri du début. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? On pourrait multiplier les exemples, il suffit de relire les psaumes. Pour David, sa vision est la vision de son temps. Si on obéit à la loi de Dieu, si on observe les rites, alors on a la protection de Dieu automatique. Et vous lisez tous les récits des rois, vous verrez que c'est comme ça que ça marche. C'est sa conception du monde. Évidemment, ce n'est plus la nôtre. Donc il faut faire attention quand nous lisons les psaumes de David à ne pas transposer tel quel. Chaque civilisation a sa conception du monde. Vous savez, la conception romaine, c'était une conception élitaire. Il y avait des gens en haut qui gouvernaient, qui s'appelaient les patriciens, puis il y avait tous les autres qui avaient des droits divers et puis pas de droits du tout. Et tout ça cimenté par le culte de l'empereur, auquel les chrétiens se sont opposés. Mais lorsque ce système a commencé à ne plus fonctionner comme il faut, notamment parce que le christianisme l'avait quand même bien sapé, eh bien, l'empire s'est effondré. Et je lisais avant-hier dans un livre sur la ville, l'histoire de la ville, que cette glorieuse ville de Rome qui avait 1 million d'habitants, quand l'empire s'est effondré, à la fin du 5e siècle, elle avait 25 000 habitants. Vous vous rendez compte? 1 million, 25 000 habitants. Donc c'était devenu une bourgade. Toutes les civilisations connaissent ça. La chrétienté l'a remplacé. Le Moyen-Âge a été un âge d'or avec les cathédrales, avec le règne de l'Église, etc. Mais lorsque la noblesse a voulu se séparer des préceptes de l'Église, quand les seigneurs ont dit « bon, maintenant ça suffit, nous on va décider pour nous », eh bien le système s'est ébranlé, s'est effondré. Et celui qui le fait tomber, c'est Luther. La réforme fait tomber le système du Moyen-Âge. Mais qu'est-ce qui naît à la place du système du Moyen-Âge? Quel système de valeurs? Ben celui dans lequel nous vivons, qui s'appelle l'humanisme et le rationalisme. N'oublions pas que l'humanisme, c'est un joli mot, mais dont il faut savoir la définition. L'humanisme à la Renaissance, c'est l'homme au centre du monde. Donc un chrétien ne peut pas être humaniste au sens premier du terme. Il peut être humanitaire, c'est-à-dire s'intéresser à l'homme, mais pas humaniste. Et le rationalisme, ben vous savez qu'à partir du XVIIIe siècle, c'est ce qui va saper consciencieusement toutes les bases de la foi. Donc, aujourd'hui, où en sommes-nous? Quels sont les fondements qui sont en train de s'écrouler et sur quoi peut-on pleurer? Bon, vous connaissez la formule, c'était mieux avant. À partir d'un certain âge, il faut faire très attention à ne pas tomber dedans. Mais le « c'était mieux avant », vous croyez qu'on l'a inventé? Non. Vous avez des textes antiques qui racontent le « c'était mieux avant » à l'époque romaine, à l'époque grecque. Dans la Bible, il y a plein de « c'était mieux avant ». Donc ça, c'est ce que j'appelle la déploration. C'est-à-dire qu'on regrette, on déplore. En fait, on regarde dans le rétroviseur. Et on dit « c'était quand même vachement mieux avant ». Le judaïsme comme religion s'est construit sur une sorte de nostalgie. D'abord la nostalgie du jardin d'Éden. Et puis quand ils ont été déportés, que le temple a été détruit, ben, ils ont eu la nostalgie de Jérusalem. Vous avez le fameux psaume 137 « Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions ». Le judaïsme est toujours une religion nostalgique. Ils attendent le Messie. Et en attendant, ils subissent. Mais le christianisme a repris cet héritage. Au lieu d'avoir cette déploration juive, nous avons le péché originel. Depuis l'origine de la vie, nous traînons le péché transmis par nos premiers ancêtres. Je ne discuterai pas la validité de ce concept. Hein. Je dis c'est ça dont il est question. Et puis nous traînons la nostalgie d'une église idéale. Ah, l'église idéale, ça, elle aura fait du mal à l'église réelle. Hein. L'église idéale, c'est celle que nous croyons qui a existé au moment des temps primitifs. Donc il y a une idéalisation de l'Église primitive. Alors je vous conseille de lire des travaux, il y a plein de travaux sur l'Église primitive, lisez des livres sur l'Église des premiers temps et vous verrez, c'était pas mieux que maintenant. Mais nous avons cette nostalgie, et nous avons l'impression que si on revenait à l'Église primitive, on aurait une Église idéale. Et si on n'y revient pas, évidemment, C'est toujours la faute des frères et sœurs qui n'arrivent pas à vivre l'Église. Ce n'est pas notre faute. Donc nous sommes coincés entre la déploration du monde qui va mal, qui va très mal, nous en reparlerons, et le fait que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors quelquefois ça va, quelquefois ça ne va pas. Mais si nous restons dans ce premier temps de la déploration, je dois dire que notre vie est extrêmement triste. Elle ne peut pas être positive, elle ne peut pas témoigner de la sagesse et de la justice dont on a parlé. Alors vient le deuxième temps, le temps de l'analyse et de la réflexion. Il faut passer par le constat de déploration, hein, je suis d'accord, il faut constater que ça ne va pas et que c'est pas du tout conforme à ce que nous espérions. C'est une prise de conscience, hein, on voit que les choses sont négatives. Mais il faut ensuite faire un effort de lucidité pour interpréter cette déploration. Vous connaissez tous le passage, je ne l'ai pas mis parce que ça nous allongerait. En Luc 15, Jésus raconte une histoire qu'on appelle, grosso modo, l'histoire du fils prodigue. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec le titre traditionnel, mais bon. Donc vous connaissez l'histoire d'un fils qui demande sa part d'héritage et puis qui s'en va. Et ça ne se passe pas bien pour lui, hein. Il mange l'héritage, il se retrouve dans une situation misérable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les versets qui sont affichés. Les versets 17 à 19. Regardez le verset 17. « Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris à cause de la famine. » Voilà, le constat est fait, hein, il peut le déplorer. Lui, il est en train de mourir de faim, il convoite à la nourriture des cochons ou des animaux, et chez son père, les moindres employés mangent bien. Donc, va-t-il en rester là? C'est-à-dire, va-t-il rester à la déploration? Non. Regardez le verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il fait deux constats qui l'engagent, hein, qui sont douloureux. Premièrement, il a fauté contre son père, ce dont il n'avait pas du tout conscience quand il a demandé sa part d'héritage. Et deuxièmement, sa situation est telle que si son père le traitait comme un simple employé, eh bien, il serait déjà heureux. Donc, il a dépassé la déploration pour arriver à une analyse lucide. Il s'est mis tout seul dans cette situation, et maintenant, eh bien, il va être obligé de revenir vers son père. Mais nous savons qu'il a pris la décision de revenir vers son père, et nous savons que l'histoire se finit bien. Alors nous, que faisons-nous de notre déploration et du constat de ce monde misérable? Il y a deux solutions. Soit nous nous enfermons dans la constatation que tout va mal, et je connais beaucoup de gens qui en restent là, et dans ce cas-là, nous devenons aigris, nous devenons amers. Et quand nous sommes aigris ou amers, nous faisons le vide autour de nous. Les gens n'ont pas envie de fréquenter des gens amers ou aigris. Soit nous constatons effectivement que ça ne va pas bien et nous faisons un diagnostic lucide en mettant notre intelligence en marche. Alors, je vous dis, les deux domaines dans lesquels on peut déplorer. Le monde. Oui, le monde va sans doute objectivement bien plus mal qu'il y a 50 ou 60 ans. Ça, je suis d'accord avec vous. On a des indicateurs très précis. Je ne parle pas seulement de l'écologie, hein, mais l'écologie en fait partie. Pourquoi ? Parce que ce monde avance sans repère sûr, parce que depuis 45 ans ou 50 ans, on les a détruits systématiquement les uns après les autres. L'éducation, hein, chaque ministre essaie de faire sa réformette, mais le problème est que l'éducation est le reflet de la société et pas l'inverse. Quand la société va mal, l'éducation va mal. On idéalise l'école de Jules Ferry, l'école primaire des années 1880-1900, mais la société était dans un meilleur état de cohésion, et donc on pouvait avoir une école qui fonctionnait. Aujourd'hui, l'école est comme nous, comme notre société. L'autorité et la discipline. Alors, évidemment, à l'école, bon, on ne va pas en parler, mais dans la société en général. Hein, l'autorité est perçue comme un abus de pouvoir. La discipline comme une contrainte insupportable. À tel point que le gouvernement ne savent pas comment faire, qu'ils envisagent de remettre un service national qui sera universel mais qui ne le sera pas, qui ne sera pas militaire mais qui pourrait être encadré par des militaires. Enfin, on nage en plein à peu près. L'éthique et la fraternité. Ah, ça ne va pas très bien. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui fait passer tout ça dans l'opinion ? Mais c'est une pseudo-liberté qu'on aurait conquise. On aurait conquis cette liberté qui nous avait été volée jusqu'en 1968-70. D'un seul coup, ça y est, on aurait trouvé le chemin de la liberté. Avant, nous n'étions que des esclaves. Et on aurait conquis cette liberté dans tous les domaines. Et cette liberté, à la différence de la liberté philosophique, ça serait une liberté illimitée, mais qui passe surtout par la propagande. La propagande est aujourd'hui à un stade d'importance et d'influence colossale, et qui passe par l'unique civilisation matérielle et la consommation. Vous avez la liberté aujourd'hui d'acheter une voiture électrique. Et au cas où vous n'auriez pas compris, mettez-vous devant un écran de télévision ou de cinéma et regardez les pubs sur les voitures. Et vous verrez, vous avez la liberté d'acheter une voiture électrique. Mais surtout pas d'acheter une voiture thermique. Non, non, ça, c'est caca. Ça, il faut arrêter. Hein. Bon. Jésus lui-même a dit, à un moment donné, devant ses disciples, il a dit qu'il était venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il a dit qu'il était venu chercher les brebis d'Israël qui étaient comme des brebis sans berger. Ça veut dire qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà ce phénomène de gens désorientés. Hein, la Palestine, ce n'était pas le paradis, hein, entre les religieux juifs et l'occupant romain. Bon, et l'Église du Christ, là-dedans ? Ben, l'Église du Christ, si vous prenez les paroles de Jésus, alors là, on peut se régaler, parce que vous prenez ce qui a trait aux pharisiens, aux sadducéens, et vous avez un catalogue d'attaques religieuses énorme. Jésus a attaqué les gens de sa propre religion. Hein. Il était juif, et il connaissait bien la religion juive, la preuve de ses prédications. Qu'est-ce qu'il leur reprochait ? De s'attacher à la lettre de la loi et de ne pas en avoir compris l'esprit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, les églises sont traversées par des scandales. Évidemment, le plus grand, c'est le scandale sexuel qui touche l'Église catholique. Alors là, on a découvert un gisement sans fin de turpitude. D'abord, ça jette l'opprobre sur tous les catholiques, hein. Tous les catholiques sont déconsidérés par la faute de quelques-uns par rapport au total. Et puis, parfois, il y a des protestants qui s'en réjouissent, qui disent « Ah, on avait toujours dit que les catholiques, ils étaient dans l'erreur. » Bon, d'abord, il se passe la même chose chez les protestants, mais on ne le sait pas. Et deuxièmement, regardez de l'autre côté de l'Atlantique, regardez les télévangélistes, regardez les scandales qu'il y a eu. Moi, je ne trouve pas ça plus mignon que les scandales sexuels catholiques. Donc, match nul. Oui, l'Église va mal. Mais pourquoi l'Église va-t-elle mal ? Parce que elle est seulement, aujourd'hui, très souvent, une institution humaine. C'est une construction humaine. Quand Jésus dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon Église », il est clair que Jésus n'a pas construit d'Église. Il a chargé les hommes, et dans ce cas précis, il a donné une mission à Pierre, de construire l'Église. Et les hommes, ils ont construit l'Église comment ? Mais comme ils savent faire tout ce qu'ils construisent, humainement. Alors évidemment, ça démarre plutôt bien. Quand vous lisez la Pentecôte, ça démarre plutôt bien. Mais quand vous lisez les épîtres de Paul, notamment aux Corinthiens, qui sont écrites, mettons, 25 ans après, ben, ça a démarré bien, mais ça va pas terrible. Donc, l'Église, elle a toujours chaoté. Elle a toujours été imparfaite. Il y a toujours eu des brebis galeuses dans la bergerie. Et d'accord, il faut constater, il faut se débarrasser de ces brebis galeuses ou il faut les obliger à se repentir. Ça, c'est évident. Hein, il ne faut pas couvrir ça. Mais rester à cette condamnation pour dire « l'Église est pourrie et moi, je ne fréquente aucune église parce que moi, je suis pur et je ne veux pas y aller » ou « bon, ça, c'est pas bon ». Pourquoi pourrait-on faire autrement ? Mais il faudrait faire de l'institution humaine une institution spirituelle. C'est-à-dire que ce soit le temple du Saint-Esprit, véritablement, qui soit dans l'Église. Et pour faire ça, nous avons des outils. Simplement, ça demande de lutter contre notre confort et notre tendance à nous encroûter dans le rite. Alors, nous arrivons au troisième temps. Rappelez-vous la question principale, celle qui m'a interpellé quand j'ai lu ce verset qui a déterminé ce message. Le juste, que ferait-il ? Et vous avez deux traductions. Hein, vous en avez une au futur, que fera-t-il ? Ou que ferait-il ? J'aime bien le que ferait-il, parce qu'il inclut toutes les possibilités. Bon, On a vu que le juste, il peut déplorer et renoncer. Il peut aussi poser un constat lucide. Mais une fois qu'il a analysé le constat, qu'il sait tout, il a tout compris, s'il s'arrête là, est-ce que c'est positif? Ben non. Non, il a trouvé, il sait ce qui ne va pas, mais il s'en arrête là. Alors pourquoi? Déjà se poser la question. Déjà, vous voyez, se dire, le juste, que ferait-il? C'est-à-dire, vous remplacez le juste par vous, hein, votre nom, votre prénom. Que ferais-je? Ben déjà, se poser la question, c'est bien. Parce que ça veut dire que vous envisagez qu'il puisse y avoir une action. Et que nous envisageons tous qu'il puisse y avoir une action. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. On peut très légitimement se sentir impuissant. Parce que le monde, aujourd'hui, est devenu une machine tellement complexe, qui nous dépasse tellement, qui est pilotée par des hommes ou des machines que nous ne connaissons pas, qui mettent à genoux les États, qui peuvent s'affranchir des lois. Et donc on peut se dire, mais moi, petit individu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Et donc j'en reste là. Je ne suis pas le sauveur du monde, évidemment. Je ne suis pas un super-héros. Vous savez qu'on a les films où d'un seul coup, le type se transforme et il a des pouvoirs surhumains. Non. Alors comment je peux faire? Mais je vais revenir à la source évangélique de ma foi. Revenir à la source évangélique, la prédication de Jésus, à plusieurs reprises, elle dit aux disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, ce qui est parfaitement absurde, hein. Bon, mais vous comprenez bien la puissance de l'image. Il le répète à plusieurs reprises. Donc le problème, c'est bien la foi. C'est la foi. Alors, comment agir? Voilà la première des choses, et c'est difficile quand on parle avec des gens de l'extérieur, c'est là expliquer que en tant que chrétien, je ne peux pas croire à la révolution. J'y ai cru hein, quand j'étais jeune, parce qu'il y a un âge pour ça. Mais je ne peux pas croire à la révolution politique. Parce que d'abord, révolution, ça veut dire tour complet, retour en arrière. Donc ça veut dire qu'au bout de la révolution, on revient à son point de départ. Non, je ne peux pas croire à la révolution parce que je crois à la révolution intérieure. C'était la grande formulation de Tolstoï et de Jacques Ellul. Hein. Change-toi d'abord intérieurement et après tu pourras changer le monde. C'est aussi ce qu'a dit Jésus. C'est le message de l'Évangile. Alors, lisons quelques versets pour nous remonter un petit peu le moral. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal, hein. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est notre seule voie de salut pratique. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une évidence, j'allais dire, doctrinale et religieuse. Vous savez bien, nous savons tous bien, que ça c'est l'idéal. Et qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas l'impression que Christ vit en nous. Et moi le premier, là, il y a des moments, souvent, où je me dis, le Christ il est loin. Hein. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est de vivre sa vie dans la foi en Dieu. Y compris quand on bronche et qu'on tombe. Allez, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Là, Paul va plus loin. Vous êtes tous fils de Dieu. Alors, je ne vous conseille pas, quand vous vous présentez aux gens, de leur serrer la main en disant « Jean-Michel, fils de Dieu ». Ça fait un peu prétentieux. Mais nous devons avoir cette certitude que c'est pour nous. C'est pour nous. Et donc nous avons revêtu Christ, il est en nous. Allez, on en rajoute encore un verset que vous connaissez par cœur, qui est encore plus puissant. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. C'est pas je peux pas mal de choses, je pourrais faire quelque... Non, je puis tout. Donc le secret qui va nous mettre en action, c'est de réaliser chaque jour ça. Et pour le réaliser chaque jour, il faut le vivre dans la prière chaque jour, et il faut le nourrir par la lecture de la parole de Dieu, et il faut l'alimenter par l'action. Parce que si vous avez fait les deux premières étapes, prier et lu, Dieu va vous donner chaque jour une petite preuve que c'est vrai. Toutes petites, hein ? Parfois elles sont toutes petites. C'est tout petit, petit. Ce n'est pas des grandes actions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans les deux épîtres à Timothée, Paul emploie une expression que vous connaissez. Il emploie l'expression du bon combat. Je vous ai mis un verset là, Timothée 1,18. « Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement, que conformément aux prophéties qui auparavant ont été faites de toi, tu t'acquittes selon elles du devoir de combattre le bon combat. » Si on traduisait littéralement le bon combat, ça veut dire la belle action de guerre, en grec. Donc, ça veut dire que Paul incite Timothée, et à travers Timothée il nous incite, à nous considérer comme des soldats du Christ. Nous sommes dans une guerre. Une guerre spirituelle, évidemment, mais nous devons mener cette guerre au jour le jour, chaque jour. Nous sommes des soldats du Christ. Bon, moi qui suis profondément antimilitariste, je suis obligé de reconnaître que ça me gratte, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous lirez le chapitre 4 du livre de Néhémie pour voir ce que c'est qu'une action accompli sous l'œuvre de l'Esprit. Les Hébreux sont revenus pour construire la muraille de Jérusalem, c'est-à-dire reconstruire le fondement. Et aussitôt, les Palestiniens qui sont autour, qui leur avaient d'ailleurs piqué la plupart du temps leurs biens, se liguent pour faire échouer le progrès. Il ne faut pas que ça arrive. Et que font les Hébreux ? Ils se concertent et ils disent, voilà, on va se défendre. Donc, vous avez, je vous lis juste ça parce que c'est ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rebâtissaient le fondement, mais ils étaient armés. Et je vous renvoie aux armes de la foi que évoque Paul dans ses épîtres. Alors, qu'est-ce que c'est ce combat ? Ben, nous ne pouvons pas accepter que le contenu de l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, ce que nous appelons le bien, soient bafouées. Aujourd'hui, nous avons de multiples occasions de nous faire entendre, individuellement et collectivement. Il y a quand même un très grave débat qui va se conclure sans doute par une loi sur la question de la fin de vie. Comment veut-on régler le problème de la fin de vie dans notre pays ? Il y a différentes options. Il y a une option médicale de développer les soins palliatifs et d'accompagner les gens afin qu'ils ne souffrent pas. Et il y a une option de légaliser le suicide assisté et globalement l'euthanasie. Eh bien, faisons connaître notre position, pas la nôtre individuelle, mais celle qui nous semble conforme à l'esprit de l'Évangile. Faisons-le avec nuance, avec tout le sens de l'intelligence que nous pouvons avoir. Nous avons beaucoup d'autres questions. Des questions de société. Il est évident que la famille traditionnelle est aujourd'hui remise en question de manière très sérieuse et qu'il faut être complètement aveugle ou adepte de la méthode Coué pour croire que la dislocation des familles n'a pas de conséquences sociales. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Toutes les statistiques sociales de la pauvreté, de la délinquance, etc. le prouvent. Mais il ne faut pas le dire. Eh bien, nous, chrétiens, on peut le dire. Non pas pour stigmatiser ceux qui sont versés, mais pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas parce qu'on n'est pas dans la justice. Je ne fais pas la liste complète, mais il y en a plein de choses qui nous choquent. Ben on ne doit pas avaler la pilule. Matthieu 5, 14, 16 nous dit quel est notre rôle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, qui sont lumineuses. Il s'agit d'éclairer la maison et les hommes, et pas forcément en prêchant, mais en agissant. Et si nous agissons pour le bien, il y aura forcément des questions. Alors, nous arrivons à la conclusion de ce message. Souvenons-nous les trois attitudes que nous venons de voir. Nous pouvons rester dans la déploration, dans le malheur, nous contenter de dire que tout va mal, que c'est un monde perdu qui va finir dans les flammes de l'Apocalypse, mais nous ne faisons rien évoluer et surtout nous n'offrons pas le salut au monde. Nous pouvons faire des diagnostics brillants, tout comprendre, tout expliquer et rester assis. Et nous pouvons agir et parler en Fils de Dieu, en Jésus-Christ. Vous comprenez bien que c'est le troisième point qui m'intéresse et que je vous recommande vivement. Alors, dans ce cas-là, nous pourrons arriver, en guise de conclusion, à la troisième mention de Paul dans Timothée, quand Paul dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Que le Seigneur nous aide à pouvoir le dire. Amen.